Voulez-vous venir avec moi ce soir, en Bretagne, dans le Morbihan, à la Gacilly? C'est où, me direz-vous? Réponse.
C'est un village, donc il y a tout le côté chaleureux, familial, accueillant d'un village. C'est vraiment fait pour venir visiter les expositions comme ça. Et puis entre deux, on peut s'asseoir dans un transat au milieu d'un jardin, on peut manger une glace. C'est un moment de partage le temps d'une journée.
France Antel の写真雑誌を見つめる。
Regardez voir. La photo sur France Inter.
Bonsoir, ça suffit non comme réponse à la question « c'est où ?» Eh bien c'est un village où l'on peut s'asseoir dans un transat et ce détail n'est pas superflu car il y a vraiment beaucoup d'expositions à voir, une trentaine, avec des écritures photographiques qui sont mêlées, partagées dans la nature, dans les rues, les champs, les herbages soignés et cette année façonnées à la mode japonaise car le Japon est à l'honneur. La plupart des photographes japonais étaient là lors des journées d'ouverture, arrivant à la Gacilly après un voyage entre grève et pluie dans le ciel français. Mais miracle, il ne pleuvait pas sur le village. Le festival de photos déploie cette année deux thèmes qui depuis le 11 mars 2011 sont effroyablement liés. Le Japon et les océans. Le tsunami et la catastrophe de Fukushima sont dans de nombreuses séries. Les océans sont ceux de l'exil avec Olivier Jobard, les océans pollués avec Daniel Beltra ou épuisés avec la surpêche de Pierre Glaise. Pour des tableaux plus apaisants avec la mer, on peut regarder les trois îles du Morbihan dans l'œil de Guillaume Herbeau. Quant aux photographies d'Anita Conti, elles sont toujours aussi fortes. En fait, je ne peux pas vous décrire toutes les expositions. J'ai donc fait appel à Marc Feustel, spécialiste de la photographie japonaise, à Didier Brousse, qui représente Shoji Ueda, dont l'exposition « Sous le chêne » est une ode à la poésie, et à Kazuma Obara. Il avait 26 ans quand le tsunami et la catastrophe nucléaire de Fukushima s'est abattu sur le pays. Il est devenu photographe. Regardez voir est réalisé par Valérie Ayestaraï. Bienvenue Valérie. Fanny Leroy installe les photos dont on parle ce soir sur le site franceinter.fr à la page Regardez voir. Elle vous indique bien sûr aussi les actualités, les liens utiles, par exemple l'œildelaphotographie.com. Jean-Michel Montu a préparé la programmation musicale à la technique David Federman.
Regardez voir. Brigitte Patient sur France Inter.
Pour commencer cette visite dans la photographie japonaise, je vous emmène dans le labyrinthe végétal où nous attend la directrice artistique du festival, Florence Drouet. Chaque année, avec le festival, on invite un pays évidemment. Cette année, c'est le Japon. Comment choisissez-vous en fait, Florence, le pays qui sera à l'honneur pendant tout l'été ?
Pour l'instant, on a fait ce choix d'inviter un pays et c'est quelque chose qui plaît beaucoup. On a envie de poursuivre un petit peu cette aventure sur quelques années encore. Et donc, soit il y a une actualité qui s'impose à nous et qui fait que le pays s'impose de fait, soit c'est une espèce d'alchimie, de mélange de plein d'indices qui vient jusqu'à nous. Cette année, après l'Italie l'année dernière, en fait, on y était accédé par le thème de l'alimentation qui était celui de l'exposition universelle qui était à Milan. Et en fait, c'est l'alimentation d'abord nous a plu, puis on s'est dit, tiens, mais c'est en Italie. Et si on faisait l'Italie? On a eu très envie d'Italie. Cette année, il y a eu toute la COP21 qui a fait qu'on a beaucoup réfléchi l'hiver dernier sur le réchauffement climatique. Et ça nous a amené aux océans. Dans le même temps, c'était le 5e anniversaire de Fukushima, de la catastrophe, la triple catastrophe de Fukushima, qui est aussi lié à un tsunami. On pense souvent à la catastrophe nucléaire, mais c'est aussi un tsunami. D'ailleurs, c'est le tsunami qui a créé la catastrophe nucléaire. Et voilà, le Japon est une île et tout à coup, c'est devenu une évidence qu'on avait envie de parler de photographie japonaise, de travailler sur cette écriture photographique qu'on connaît pas forcément très bien et d'aller explorer ce territoire-là.
Il y a aussi de la photographie ancienne avec cette exposition avec le musée Guimet.
C'est vrai que le festival de l'Agassi, c'est tout en extérieur. On est ici au cœur du labyrinthe végétal qui est vraiment une galerie en extérieur sous les oiseaux, dans les arbres. Donc ce sont des tirages pour l'extérieur, ce ne sont pas des tirages de valeur. Ce sont des tirages qui permettent à tous les publics de découvrir des images. Mais nous avons sanctuarisé, on va dire, un espace fermé que nous avons intégré dans la programmation depuis quelques années, où nous choisissons de montrer, donc sur une 25-30 expositions, une exposition de tirages. Il y a 2 ans, quand on a fait les États-Unis, nous avions des tirages d'Ansel Adams. L'année dernière, avec l'Italie, nous avions des tirages de Giacomelli. Et cette année, nous avons des tirages d'une institution, d'une collection d'une grande richesse et dont on peut être très très fier en France, qui est la collection de photographies du musée Guimet. Et donc on a non pas les tirages originaux du musée Guimet, mais on a fait encore plus subtil. Nous avons trouvé un atelier à Kyoto qui s'appelle l'atelier Benrido et qui fait des tirages au colotype et qui a donc retiré les œuvres du musée Guimet selon cette technique-là, ce procédé-là, qui est un procédé d'invention française vieux de 150 ans et qui aujourd'hui est pratiqué. Le dernier endroit au monde où ce procédé d'impression est pratiqué, c'est à Kyoto. Donc on raconte une autre histoire entre la France et le Japon. Voilà, c'est ce dialogue-là qui est raconté aussi dans cette galerie. Nous avons aussi une autre galerie que nous allons sans doute garder les années à venir parce que c'est une réflexion qu'on a et qui nous inspire beaucoup et sur lequel on veut vraiment poursuivre cette idée, ce projet, qui est donc un autre espace intérieur dans lequel nous projetons une œuvre faite pour écran, pour projection, avec donc du son, de la vidéo et de la photographie. C'est une œuvre de création qui a été faite lors d'une résidence à Ouessant cet hiver, en janvier dernier, par Benjamin Deroche et Jean-Françoise Précigaud. On pourrait dire que c'est un quatre-mains, mais en fait c'est un quatre-yeux. Voilà, ils ont fait une résidence d'un mois donc au phare du Créac, et c'est un travail sur le vent et aussi sur le souffle de la création. On est ravis de cette restitution pour écran, et aujourd'hui la photographie, c'est tout ce que nous donnons à voir dans les galeries en extérieur pour tous les publics familiaux, gratuits, libres d'accès, où les gens même timides et non connaisseurs peuvent venir découvrir en famille de la photographie, mais aussi un espace où on présente du tirage avec une histoire autour de ces tirages, et un espace où on présente cette nouvelle écriture photographique pour écran.
Merci Florence Drouet.
Merci beaucoup Brigitte.
Un bon gris-gris avec toi, un bon gris-gris. Ouh là là, t'as besoin d'un bon gris-gris. Un bon gris-gris avec toi, un bon gris-gris. Ouh là là, t'as besoin.
La musique est mon ami, mon amour, à la vie, à la mort, elle m'a sauvé la mise, épargnée de la crise et je l'adore. Dans ses accords, la magie que j'élabore, du fond de la forme, elle agit, tout le monde est d'accord. Et vu comment le mal s'amplifie, je n'avais pas vocation comme une plante ici. Y'a eu des éraflures, j'ai fait un bon petit tri, et comme Arthur, j'ai pris mon bon gris-gris. Je fais du spiritisme en invoquant moi-même mon esprit. C'est le magnétisme des sirènes quand elles sont sexy. Y'a des tables qui bougent, y'a des chaises qui volent, les chakras s'ouvrent à leur maximum. Dans Paname, je suis un bon titi, équipé quoi qu'il advienne d'un bon grégré.
Un bon grégré contre toi, un bon grégré.
Un bon grégré.
Oulala, t'as besoin d'un bon grégré.
Un bon grégré.
Un bon grégré avec toi, un bon grégré.
Un bon grégré.
Oulala, t'as besoin. Dans tes yeux, je suis chaud, bon grégré. Dans mes bras, tu brûles.
Bon gré-gré,
j'ai le feu au cul, oui.
Bon gré-gré,
l'amour m'incendie,
moi aussi. Bon gré-gré,
oh, je ne suis que cendre.
Ça c'est bon gré-gré,
rien à foutre de rien.
Non, bon gré-gré,
elle me protège tout comme un.
Bon gré-gré,
l'amour m'incendie.
Yeah, yeah, mystique rick, yeah, mystique rack. J'ai un gris-gris dans le fond du sac, qui bon mystifie, gré-gré. Qui donne des claques aux scientifiques et profs de fac. Les plus bon cartésiens, les captent rien. T'as pas ton gris-gris, j'te prête pas le mien. J'te bon présenterai gré-gré. Deux, trois potes maliens. Tu leur lances un truc dessus, ça revient.
À Paname,
tranquille,
on se balade.
Bon gré-gré.
SDF en Gucci,
CRS en Lagerfeld.
On passe,
relax,
entre les balles.
Hey.
JPH,
Arthur Manova. Ça c'est du bon gré-gré.
Aujourd'hui plus qu'hier, on a besoin d'un,
bon gré-gré.
Pas tonnerre, anticyclone ou bien,
bon gré-gré.
Un abri anti-nucléaire fait l'affaire.
Fait l'affaire, un bon gré-gré.
Pour vivre heureux, restons secrets.
Ok, bon gré-gré.
On passe entre les gouttes,
même pas mouillé.
On rigole sous les matraques,
même pas mal.
Même pas peur que le ciel nous tombe sur la tête,
parce qu'il est déjà tombé.
Tu sais, avec un bon gré-gré, on est comme invincible.
Invulnérable, tu vois,
Ouais, c'est ça. C'est comme ça que les Indiens ont gagné la guerre contre les cow-boys.
Gagné la guerre, ils l'ont gagné,
ouais.
La guerre.
Ouais. Parce qu'ils portaient des chemises gris-gris qui arrêtaient des balles. Ouais.
Ah bah j'ai un pote indien qui vend des chemises. Je peux lui en prendre une sur toi, si tu
veux. Des chemises à 10 balles.
Ouais, en même temps, la dernière fois que je l'ai vu, il avait perdu 10 balles.
Ouais, tout ce qu'il faut, c'est un bon gris-gris.
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 Un bon gris-gris. Un bon gris-gris. Un bon gris-gris.
Un bon gris-gris.
Arthur H et JP Manova, qu'on appelle aussi l'homme invisible du rap français, pour ce bon gris-gris qui rime avec Gassilly. Dans ces jours d'ouverture du festival, il y a du monde, les photographes, les scolaires et le public qui arrivent. J'ai donc dû trouver un endroit tranquille pour poser quelques questions à Marc Festel. Il est auteur, commissaire indépendant et spécialiste de la photographie japonaise. Il est vrai que nous avons besoin de guides pour découvrir la photo japonaise, bien sûr. Nous connaissons Daido Moriyama, Araki, qui a d'ailleurs en ce moment une grande exposition au musée Guimet à Paris. Mais en dehors de ces grands noms, nous sommes un peu démunis. Quelles en sont les raisons, Marc Faustel ?
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte par rapport à ça. Tout d'abord, simplement la barrière de la langue. Les Japonais parlent très peu les langues étrangères. Et bien sûr, après la communication, on ne partage pas un alphabet, on ne partage pas une langue écrite. Donc c'est déjà un obstacle considérable. Et aussi, il ne faut pas oublier que c'est une île et qu'il y a donc une mentalité qui peut être parfois insulaire. Le Japon est un pays très riche culturellement et au niveau artistique, mais qui ne rayonne pas forcément en dehors de ses propres frontières, qui ne cherche pas toujours à le faire d'ailleurs. C'est un pays qui a toujours été très friand des cultures étrangères et d'absorber et de digérer et ensuite de créer sa propre culture. Mais ce n'est pas forcément un pays qui cherche à se promouvoir à l'étranger. Tout ça fait que parfois il peut être difficile d'accéder à leur culture, à leur production artistique. Et moi, je cherche aussi à créer des liens, simplement, entre ces mondes culturels, le monde de la culture en France, le monde de la culture au Japon. Donc, je pense qu'il y a des considérations qui sont très pratiques, comme celle-ci. Et puis, bien sûr, il faut savoir que c'est aussi une culture et une conception artistique qui est très différente de la nôtre, donc qui peut être difficile à appréhender du premier abord.
C'est-à-dire, en parlant de photographie, justement.
Je pense que le Japon a intégré la photographie très tôt après la création de la technique photographique. C'est un pays qui est formidablement riche au niveau de la production photographique. Il y a des choses qu'on voit à la Gassilly, par exemple. On voit cette relation avec la nature qui est très importante. Pratiquement chaque photographe japonais va traiter la nature sur plusieurs séries différentes, que ce soit sur la mer, sur la montagne, sur les cerisiers en fleurs, bien sûr. Donc ça, c'est une chose, par exemple. Et une autre chose que je pense intéressante par rapport à la photographie au Japon, c'est que la photographie reste quelque chose d'assez instinctif. C'est-à-dire qu'on prend un appareil photo et qu'on va dans le monde. On ne cherche pas forcément à conceptualiser un projet photographique qu'on irait ensuite exécuter donc autour d'une idée bien construite, autour d'un discours bien construit. On cherche simplement à aller dans le monde et à trouver quelque chose de cette manière-là. Donc, quand on parle de la photographie au Japon, on en parle souvent dans des termes qui sont beaucoup moins intellectuels et cérébraux que des termes qui sont beaucoup plus émotionnels, aussi d'atmosphère, de sentiments, d'émotions. Donc, je pense que là, il y a une différence fondamentale dans la photographie japonaise.
dans le festival ici, Marc Feustel, vous représentez deux photographes de deux générations différentes, me semble-t-il. Et l'un s'est intéressé à la foule, à ces gens qui marchent par milliers ou par centaines dans des lieux. Vous nous en parlez ?
Donc le photographe s'appelle Hiromi Tsuchida, et donc il est né en 1939. Mais cette série, donc qui s'appelle « En comptant les grains de sable », cette série, il l'a réalisée dans les années 2000. C'est une série, en fait, qu'il avait déjà amorcée dans les années 80, en noir et blanc, sous une forme très différente. Et c'est une série qu'il a commencée en voulant regarder un phénomène social au Japon, en s'interrogeant sur la structure de la société japonaise. Et bien sûr, on connaît le Japon comme peut-être un pays de masse, où on a plus une notion de l'ensemble que de l'individu. Et donc c'était un peu cette question-là qui l'interpellait pour amorcer cette série. Donc il a beaucoup photographié les grands rassemblements, des foules ahurissantes qu'on voit pas de cette manière-là en France, que ce soit pour des fêtes nationales, des événements, des divertissements, mais aussi des rassemblements parfois sociaux. Il a arrêté la série à la mort de l'empereur en 1989, se disant qu'une foule plus importante ne pourrait pas exister que celle qui est venue pour ses obsèques. Mais il a repris la série dans les années 2000 parce que il avait, avec le changement de siècle, l'impression de voir un changement au niveau social, et que la foule, la topographie, j'ai envie de dire, de la foule avait changé. Que c'était moins des individus qui venaient former un tout, mais qu'on voyait un phénomène social où la société se fragmentait un petit peu. Qu'on restait un peu plus dans son coin. Et donc les foules étaient plus des espèces de réseaux de petits noyaux qui étaient interconnectés, mais qui formaient moins un tout uniforme. Et donc il a voulu recommencer cette série d'une manière plastique très différente, donc avec des couleurs ultra saturées qui retravaillent après les prises de vue, et un travail à la chambre, donc un travail sur le paysage aussi, donc de montrer l'interaction de la foule, de l'être humain avec le paysage. Et vraiment c'est aussi pour montrer que la société japonaise devenait de plus en plus matérialiste et commençait à habiter, comme le disait Tsuchida lui-même, un monde un peu irréel, un monde un peu fantasmé, et qu'on avait du mal à différencier ce monde fantasmé, un monde qui existe plus dans le domaine numérique de plus en plus, un monde qui existe plus dans à travers un écran que le monde réel. Et donc cette série-là explore un peu toutes ces questions.
Et hier, en plaisantant, il nous disait qu'il se replaçait de façon artificielle dans la foule, et que c'était un peu comme notre jeu à nous, chercher Charlie, c'est cela ?
Une fois qu'il a réalisé la prise de vue, qu'il a ensuite retravaillé les couleurs, il s'implante artificiellement dans la foule, de manière assez crue d'ailleurs. Quand on regarde de près, on a l'impression d'un petit personnage découpé qui a été collé sur l'image. Tsuchida a vraiment un sens de l'humour quand on le rencontre, on s'en rend compte très rapidement. Mais c'est aussi un geste qu'il a réalisé pour essayer de questionner sa place dans ce nouveau Japon, et aussi pour questionner le réalisme de la photographie. C'est-à-dire que dans ses questionnements sur l'irréalité du monde japonais, du monde contemporain d'ailleurs, en se plaçant dans l'image, il questionne notre idée de la photographie comme une réalité.
Marc Feustel, vous qui êtes un spécialiste de la photographie japonaise, vous avez visité toutes les expositions, hein, il y en a une trentaine. Avez-vous découvert un ou une auteur photographe japonais ou japonaise ?
La photographie japonaise est un monde très très riche. La production contemporaine est très dynamique, donc il y a toujours des découvertes à faire. Il y a certains artistes comme Yoshinori Mizutani, qui est un très jeune photographe qui est installé à Tokyo, qui présente ici un travail sur les perruches à Tokyo, et également un travail sur le sakura, sur le cerisier en fleurs, qui est une des forces photographiques contemporaines à suivre, il me semble. C'est quelqu'un qui photographie, semble-t-il, sans cesse, qui publie des livres les uns après les autres, mais qui ne se répète pas, qui se renouvelle souvent, et qui a vraiment une patte artistique très prononcée. On reconnaît ces images très facilement. Il y a aussi le travail de Miho Kajioka, que je ne connaissais pas auparavant, qui est présenté dans un ensemble de 3 expositions sur Fukushima. Donc la série, il me semble, s'appelle « Où sont passés les pans ?» et c'est une vision qui me semble très intéressante sur les événements de mars 2011. Elle traite ce sujet très difficile de manière assez différente. On n'est pas dans un traitement direct de la catastrophe, de la destruction. C'est vraiment une approche très personnelle, très lyrique sur ce sujet-là.
Oui, c'est traité de façon très intimiste. Vous parliez de Yoshinori Mizutani, qui produisait des livres et des livres. C'est un peu la particularité aussi des photographes japonais, de travailler sur l'édition, sur la publication de livres. Expliquez-nous pourquoi.
Alors oui, le livre est très très important à la photographie japonaise. Quand on regarde dans l'histoire du développement de la photographie, le livre a joué un rôle particulièrement important au Japon. Parce que, premièrement, il y avait très peu d'espace d'exposition. La première galerie photographique à Tokyo a ouvert en 1978. Et la photographie a intégré les musées de manière assez tardive par rapport à l'Occident. Donc, pour les photographes, il y avait peu d'opportunités de montrer leur travail dans un contexte d'exposition. Et donc, le livre, bien sûr, devenait primordial pour pouvoir montrer leur travail, pour pouvoir développer leur série. Mais aussi, je pense qu'il y a, en dehors de ces considérations pratiques, un désir au Japon de traiter la photographie sous la forme de série. Donc, on a peut-être une conception de l'image en Occident, de l'image unique, de regarder une photographie seule, plutôt que dans un ensemble. Au Japon, souvent, c'est l'ensemble qui prime. Donc on conçoit la photographie comme un ensemble d'images, plutôt qu'une série d'images qui se suivent les unes après les autres. Donc souvent, les Japonais travaillent de cette manière-là, et le livre se prête très très bien à cela. Et il y a aussi le fait, dans le livre photographique au Japon, qu'il y a une grande tradition qui remonte plus loin que la photographie elle-même, de l'objet imprimé, de la gravure. Quand on regarde l'édition photographique japonaise, souvent des objets assez étonnants, des livres-objets, des livres d'artistes qui sont fabriqués d'une manière magnifique, qui montrent un vrai artisanat, une vraie conception de l'impression, de la qualité de l'image, de l'objet lui-même. Donc le graphisme est très important aussi.
Merci beaucoup, Marc Festel.
Merci à vous.
Regardez voir la photo sur France Inter.
Il est très beau cet endroit à la Gacilly. On est dans la verdure et il y a des petites choses métalliques qui pendent, des arbres qui font un joli bruit. Chaque parcelle d'exposition, en fait, a un nom. Ainsi, le jardin du relais postal propose 3 expositions, 3 photographes qui ont travaillé à partir de Fukushima le 11 mars 2011. L'un de ces photographes, c'est Kazuma Obara. Kazuma Obara, vous êtes né en 1985. Au moment de la catastrophe de Fukushima, vous aviez 26 ans. Étiez-vous déjà photographe ?
3月11日の2011年の日は
Alors à la date du 11 mars 2011, à l'époque je travaillais dans le monde financier en fait, et j'habitais à Kyoto qui est à peu près à 1000 km de Fukushima.
Évidemment, comme tous les Japonais et toutes les personnes du monde entier, vous apprenez cette catastrophe. Qu'est-ce que ça déclenche chez vous pour que vous alliez là-bas et que vous vous mettiez à faire des photographies ?
À
l'époque, bien sûr, je vivais à Kyoto, mais les zones qui ont été sinistrées par le tsunami et aussi qui ont été irradiées par la centrale nucléaire, ma maison natale n'était plus ou moins dans la même région. qui faisait que j'avais aussi beaucoup d'amis d'enfance qui y étaient restés. Ma première motivation a donc été que je voulais savoir en fait leur état, leur situation et qu'est-ce que je pouvais faire en tant qu'individu pour les aider. Donc ma première décision a été de me déplacer sur place.
Sans doute il y a une histoire entre vous et la photographie, mais vous auriez pu faire des images vidéo, vous auriez pu écrire, et vous avez choisi un appareil photo pour témoigner. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ?
そうですね、難しい質問になるんですけれども、一番最初に感じたことっていうのは、まず当時京都にいたんですよね。それで自分の周りにいた人たちっていうのは、結構その東北で起きたことに対してすごい距離があるので、
comme je le disais tout à l'heure aussi, à l'époque j'étais à Kyoto. C'est une ville éloignée de la région du Tohoku qui a été sinistrée par le tsunami.Et donc les gens, en tout cas dans mon entourage à l'époque, ne ressentaient pas vraiment de sympathie ou même ils ne se rendaient pas vraiment compte de la situation où ils ne se sentaient pas proches, ils ne se sentaient pas émotionnellement proches en fait de ces victimes. Et aussi beaucoup de personnes en fait ont arrêté de regarder la télé parce qu'à la télé il y avait beaucoup d'images, de vidéos du tsunami, c'était assez violent, beaucoup de gens ont eu peur aussi. Ils ont arrêté de regarder la télé, donc il y avait cette espèce de détachement émotionnel par rapport à ce qui se passait dans le Tohoku. Et en même temps, moi, je voulais pouvoir soumettre quelque chose qui pourrait faire que les gens témoignent de la sympathie à ces victimes. Et je me suis dit que si les gens étaient trop submergés d'émotions et de peur par les vidéos et par les images du tsunami, peut-être que la solution était de prendre des photos de la situation actuelle du Tohoku et que les gens donc pouvaient avoir aussi le temps de regarder la photo, prendre eux-mêmes les émotions et de réfléchir par eux-mêmes, en fait.
Je ne sais pas si on peut parler de choix, mais qu'est-ce que vous choisissez de photographier ?
C'est vrai que le premier point, on va plus se focaliser sur l'accident dans la centrale nucléaire de Fukushima. Mais il faut savoir qu'à l'époque, c'est vrai que et le gouvernement et TEPCO bloquaient beaucoup les informations, faisaient une restriction totale, ce qui faisait que beaucoup d'informations n'étaient pas publiques. Nous n'avions pas accès à des informations cruciales. Donc, dans un premier temps, c'était aussi cette idée d'avoir accès à des choses auxquelles on devrait avoir accès, mais auxquelles on n'avait pas accès. Et deuxièmement, ça revient un peu sur ce que j'ai raconté tout à l'heure. Mais encore une fois, donner des photos qui ne vont pas vraiment déclencher la peur automatiquement chez les gens, leur donner un peu de distance tout en essayant de transmettre la situation actuelle. Et c'est pour ça que c'est vrai que je voulais, pour garder cette distance idéale, j'essayais de prendre des photos qui, en tant que photo même, ont une certaine qualité esthétique tout de même, tout en montrant le désastre de ce tsunami. Et aussi, en fait, de garder cet esprit un peu serein, calme, même au sein des photos, pour que les gens puissent prendre le temps de les contempler.
Dans l'exposition, il y a des photos en couleur, d'autres en noir et blanc. Comment s'est opéré ce choix pour vous, Kazuma Obara ?
La plupart des photos en noir et blanc sont celles que j'ai prises au sein de la centrale nucléaire. Je n'avais pas envie de donner une image trop scandaleuse par rapport à ces images que je prenais. Le seul fait que je sois entrée dans cette centrale nucléaire était hors la loi. Je me suis fait passer pour un travailleur de centrale nucléaire pour pouvoir prendre ces photos. Donc je n'avais pas envie que ce soit le premier message, ce côté hors la loi, ce côté scandaleux dans mes images. Et c'est de ce fait-là que j'ai pris du noir et blanc. Comme ça, ça donnait une atmosphère un peu plus calme, sereine à ces images. Alors que de l'autre côté, tout ce qui est en couleur, c'est vraiment la réalité, la situation à l'époque actuelle du Tohoku, et je voulais que les gens voient ça en face.
Ce travail a-t-il été montré, exposé, publié au Japon ?
そうですね。震災直後の3ヶ月後に大阪というその
Alors oui, ma première occasion a été trois mois après le sinistre dans la ville d'Osaka.
できるだけ遠くの人たちにその事実を伝えたいという思いがあって写真展をやったのと、あとその後
C'est là où j'étais salarié avant. Nous avons pu avoir une exposition à ce moment-là. Et après, pendant un an, nous avons pu faire une exposition, une tournée d'exposition régulière.
Pourriez-vous, Kazuma Obara, choisir une photographie dans le livre que vous avez là pour conclure l'entretien, une photographie importante à vos yeux et la décrire aux auditeurs de France Inter.
写真はですね、2011年の8月に撮られたんですけれども、福島第一原発にその作業員として入った時に撮った写真で、まあ、この時に入って分かったことが、まあ、今もあのチェルノブイリ撮影をしていたり、ずっと原発
Alors, cette photo a été prise en août 2011, lorsque je me suis fait passer pour un travailleur de centrale nucléaire. C'est donc le réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire de Fukushima. Et vraiment, c'est en fait c'est tout le background qu'il y a derrière cette photo qui fait que me tient à cœur, parce que c'était vraiment à une époque où le gouvernement et TEPCO faisaient une restriction d'informations. On n'avait pas accès à vraiment toutes les informations cruciales et d'entrer dans ce lieu qui était interdit. Déjà était très fort et aussi en fait on ne se rendait pas compte que les personnes vraiment qui allaient se sacrifier pour ça, c'était les gens qui continuaient à travailler dans cette centrale pour essayer de stopper l'accident et aussi être en contact avec eux était très une expérience très forte pour moi.
Je crois savoir que vous avez travaillé sur Tchernobyl et que ce sera le prochain ouvrage que vous allez publier, comme si cette catastrophe vous avait embarqué dans une histoire difficile avec la photographie et le nucléaire.
Actuellement, je travaille sur des projets tels que Tchernobyl ou même d'autres centrales nucléaires. C'est un thème qui me tient à cœur. Et c'est vrai que tout en prenant des photographies à Fukushima, l'évolution que pourrait prendre cette situation et pour les travailleurs et pour les gens qui habitent dans les environs m'intéressait. Qu'est-ce qui allait se passer dans 30 ans, dans 40 ans? Là, bientôt, ce sont les 30 ans de Tchernobyl. Et c'est aussi pour ça que je suis actuellement en train de travailler sur ce projet pour voir en fait comment une catastrophe nucléaire peut avoir des incidents au-delà de quelques décennies.
Merci beaucoup. Un dernier mot, venez-vous souvent en France ?
C'est régulièrement. Ma première exposition de mon travail sur Fukushima, c'était à Paris qu'elle a été exposée, la toute première fois. Et donc cette année aussi, en octobre, j'aurai une autre exposition de photos.
À Paris ?
Quelque part en Bretagne.
Ah là, je vous ai entendu parler français. Vous parlez français ?
En
général, j'ai quelques mots pour dire bonjour, mais là, avec le stress, bon, j'ai un peu tout oublié.
Merci, Kazuma Obara.
Merci beaucoup.
J'ai vérifié, Kazuma Obara sera effectivement en Bretagne à la rentrée au festival Photo Reporter en baie de Saint-Brieuc et ça commence le 1er octobre. Avant de vous parler de Shoji Ueda avec Didier Brousse, Radiohead pour vous emporter dans la nuit avec nous.
Regardez voir Brigitte Patient sur France Inter.
Quand on arrive au festival de la Gacilly, c'est tout près de Redon, en Bretagne. Quand on arrive là, des dunes vous accueillent sous le grand chêne, des dunes en noir et blanc de Shoji Ueda, ce photographe né en 1913, qui dit d'ailleurs que les dunes, c'est son studio. Didier Brousse, le directeur de la galerie Camera Obscura à Paris, représente Shoji Ueda, mais aussi Takashi Arai, qui propose Fukushima au daguerréotype, des images exposées comme irradiées, qui méritent tout de même quelques explications, Didier Brousse.
Oui, donc en fait, ici à la Gacilly, comme les expositions se passent en extérieur, ce sont des reproductions, en quelque sorte, de cette daguerréotype qui sont exposées, parce que le daguerréotype est un petit objet qui doit être plutôt exposé dans une pièce sombre avec un éclairage ponctuel. Sinon, ça ressemble presque à un miroir. C'est une plaque de métal poli sur laquelle l'image s'est formée. Et donc, il faut des conditions très particulières pour bien la voir, disons. Et donc, Takashi utilise cette technique qui est une des premières en photographie, qui était très populaire au milieu du 19e siècle et assez vite abandonnée parce qu'elle est tellement difficile. C'est un travail considérable de préparer chaque plaque, de la polir, de l'exposer, de la développer. Et la caractéristique, c'est que donc, la plaque que nous voyons, c'est la plaque qui a été dans l'appareil photo. C'est vraiment comme un miroir qui a attrapé l'image du monde. C'est vraiment le lien le plus direct de la photographie, en photographie, entre ce qui est vu et ce qui est représenté. Et donc, Takashi utilise cette technique pour documenter, disons, ce qui s'est passé après Fukushima, non pas dans les lieux vraiment touchés très directement par la catastrophe, mais par les lieux impactés par la radioactivité où les gens habitent encore. Depuis quelques années, il poursuit ce travail de façon générale sur l'histoire du Japon avec l'atome. Hein, c'est quelqu'un qui avait documenté aussi des restes, des choses de Hiroshima, etc. Et là, quand la catastrophe de Fukushima a eu lieu, c'était pour lui un thème très important. C'est quelqu'un de très militant dans ce domaine aussi.
Alors là, donc, nous sommes devant les photographies d'un auteur, d'un photographe japonais qui n'a pas le même âge. Il est décédé en 2000, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Il s'agit de Shoji Ueda.
Donc Shoji Ueda, c'est un photographe dont l'œuvre m'est, je pense, la première fois venue sous les yeux dans les années 80. Je n'ai pas un souvenir précis de l'année, mais il y a eu un mois de la photo consacré au Japon. Et donc, il y avait des images de Ueda exposées à ce moment-là à Beaubourg, je pense. La revue Camera aussi avait fait un très beau portfolio sur Ueda. Et voilà, c'est une œuvre pour laquelle je suis tombé amoureux immédiatement. Par la suite, lorsque j'ai ouvert la galerie dans les années 90, j'étais en contact un peu indirectement avec Ueda, plutôt avec sa galerie au Japon. J'ai fait aussi quelques tirages pour lui, en fait. Ueda faisait toujours ses tirages lui-même, mais je lui avais proposé de faire des tirages aux platines sur papier Japon dans le but de faire un portfolio de son travail. Voilà. Donc premier contact avec lui à ce moment-là. Et j'avais rendez-vous avec lui en juillet 2000 pour préparer une exposition. J'ai appris son décès à l'ouverture du Festival d'Arles en juillet 2000. Et donc malheureusement, je suis allé chez lui 15 jours après son décès. C'est sa fille qui m'a accueilli. J'ai visité le musée Shoji Ueda, qui est un lieu tout à fait extraordinaire, où toute son œuvre est rassemblée. Ensuite, une période, disons, de travail avec la famille, son fils, sa petite-fille ensuite, a été nécessaire pour qu'on fasse finalement une exposition à la galerie quelques années après.
Alors là, on est devant ces photographies. Il s'agit de photographies en noir et blanc. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez en choisir une et puis ensuite, bien sûr, nous dire quelle place il a dans la photographie et dans la photographie japonaise ?
Oui, ben là, on est par exemple devant une série qui est très emblématique et connue de Shoji Ueda. Ce sont ces photographies qu'il a fait dans les dunes de Tottori, qui est sa province natale. Une province proche de la mer du Japon, donc une province de mer, de plage, avec des très grandes dunes, qui ont été pour lui comme un petit théâtre dans lequel il disposait ses personnages. Alors, ses personnages, c'est souvent sa famille, c'est souvent sa femme et ses enfants, mais ça peut être aussi d'autres photographes qui l'accompagnaient là. Une revue japonaise très connue à l'époque avait, fin des années 40, en 49 je crois, organisé une rencontre de trois photographes sur ces dunes. D'où une image d'ailleurs qui reste connue, qui est la photographie d'un photographe, donc en l'occurrence Ken Domon, que son assistant couvre d'un parapluie, et Ken Domon est en train de photographier. Et donc cette photographie-là, qu'a réalisé Shoji Ueda, a un petit côté vaguement surréaliste. Mais la série qu'il a peut-être le plus développée sur ces dunes, c'est celle qu'il a fait avec sa femme et ses enfants. Et c'est vraiment caractéristique du regard à la fois presque naïf et émerveillé, regard enfantin, je dirais, de Ueda.
Oui, et joyeux.
Et joyeux. On a fait à la galerie, à la suggestion de la petite fille de Ueda, une exposition qui rassemblait Lartigue et Ueda. Donc tous les deux ont cette même appétit de vie, ce regard très, très, très frais, rieur, enfantin, et en même temps des images d'une beauté plastique extraordinaire.
Et est-il connu en France ? En France, nous connaissons les photographes japonais tels que Araki, Moriyama, mais a-t-il une belle place dans la pensée collective de tous ceux qui s'intéressent à la photographie en général ?
Alors il me semble, bien qu'il soit moins montré, hein, c'est-à-dire que... Mais je pense que chaque fois qu'il est montré, l'adhésion de ceux qui voient son travail est assez immédiate et assez... presque universel, je dois dire. C'est quelqu'un qui peut fasciner des spécialistes de la photographie japonaise et qui peut fasciner quelqu'un qui connaît rien à la photographie. Parce qu'il y a ce côté effectivement joyeux. Il a photographié beaucoup les enfants. Il a fait un livre qui s'appelle « Les quatre saisons des enfants ». Il a photographié donc les petits-enfants qui vont à l'école, la petite vie ordinaire, comme ça. Et c'est un regard un petit peu malicieux, un petit peu à la Ozu, à la fois avec la malice et la poésie. Et je pense que ça touche universellement. À mon avis, il n'est pas assez présenté, bien sûr. L'exposition qu'on avait fait à la galerie il y a quelques années suivait une exposition, très belle exposition à la MEP, qui venait du musée Ueda. Et je pense que l'expo a eu un succès énorme. Bon, rien à voir avec Moriyama, rien à voir avec Araki. C'est une autre face de la photographie japonaise qui, je pense, est très importante.
Pour se quitter, Didier Brousse, enfin se quitter, on va rester dans la verdure de l'Agassi, mais il s'agit de sa femme, donc, qui est au centre de l'image.
Oui, alors c'est ça. C'est une photo qui s'appelle « Maman est à moi ». Et donc il y a un petit garçon et une petite fille qui se disputent leur maman, chacun tirant de son côté sur les manches de son kimono. Donc c'est donc deux enfants de Ueda. Et à l'arrière-plan, il y en a un autre qui a un bras en écharpe, qui regarde un petit peu la scène en souriant. Et donc la correspondance un peu formelle entre les manches du kimono, le bras en écharpe, les deux enfants qui s'amusent à tirer leur maman. C'est, voilà, c'est une image extrêmement belle et je pense qu'il peut parler à tous. Il y a quelque chose de l'univers de l'enfance extraordinaire.
Et cette photographie date de 1950. Merci beaucoup Didier Brousse.
Merci à vous.
Et merci à vous. Et surtout aux interprètes Miyumi Take-le-Roi et Carolif Jimoto. À Paris, à la Galerie Vue, vous pouvez découvrir le travail de Mio Kashioka. Et où les pans sont-ils allés ? C'est jusqu'au 2 septembre, sinon une seule adresse, hein. Le Festival Photo de la Gacilly jusqu'au 30 septembre. Vous pouvez vous rendre sur la page franceinter.fr, tout y est, le podcast, la réécoute, les liens, la musique. D'autres rendez-vous sont possibles sur la page Facebook, évidemment. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un autre festival. C'est à Saint-Germain-en-Laye, le Festival du Regard, 2e édition. Sophie Zénon et Stéphane Lagoutte seront mes invités. D'ici là, passez une belle semaine avec France Inter et d'abord une belle nuit. Un very good trip avec Mishka Assayas, juste après les informations.